et que de ce point de vue, la construction européenne est fidèle à cette longue tradition. Que la construction européenne et ses élites ne veuillent rien avoir à connaître des avis des populations, on le sait maintenant depuis un moment et on le sait de toutes les manières possibles. Je veux dire, lorsqu'un événement politique aussi significatif que le non au référendum constitutionnel de 2005 se produit et qu'il n'en est tenu rigoureusement aucun compte par les élites politiques des deux bords, au point que le même texte, à quelques différentes secondes près, est resservi 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard sous la forme d'un traité soumis cette fois-ci exclusivement à ratification parlementaire puisque chat est chaudé craint désormais l'eau froide, on sait exactement où se situe, à quel niveau se situe le débat démocratique en France et en Europe, c'est-à-dire dans le caniveau. Voilà où nous sommes tombés. Et à la vérité, c'est également dans ce genre d'occasion que se révèle la complicité la plus profonde, quoique fondamentalement inavouable, entre la construction européenne et le néolibéralisme, il faudrait dire même, et la mondialisation néolibérale. Donc je soutiens que l'Europe n'est jamais que la succursale régionale et rien d'autre, en tout cas l'exact opposé des fariboles qu'on nous avait vendues sous le nom « Europe bouclier contre la mondialisation ». On prend conscience de cette complicité quasi organique à ce fait que la construction européenne a réussi à contourner et même quasiment dissoudre les souverainetés politiques nationales sans reconstruction, sans redéploiement aucun d'une forme ou d'une autre de souveraineté politique à l'échelon européen, comme on nous l'avait vendu, de sorte que s'est créé en quelque sorte un vacuum, un vide de souveraineté, c'est-à-dire un vide de puissance politique, qui a pour effet de laisser s'ébattre dans l'espace public les seules puissances résiduelles, à savoir les puissances privées du capital. Et c'est fondamentalement ça qu'elle demande. Les puissances privées du capital ne souhaitent rien tant qu'un espace débarrassé de toute autre puissance que les leurs, et c'est cela qu'on leur a offert sur un plateau. Et on en voit les résultats. Je veux dire, l'arrogance du capital, encouragée depuis 20 ans, a atteint des niveaux qui sont absolument sans précédent, et dont l'accord national interprofessionnel, l'ANI, et le pacte de responsabilité sont les dernières manifestations en date, mais il faut surtout pas s'attendre à ce que ça se calme. Et alors, dans le cas de l'Europe, la performance a pris une voie tout à fait particulière, qui est la voie quasi-constitutionnelle, consistant à inscrire dans des textes aussi lointains que possible, aussi éloignés que possible de la vox populi, c'est-à-dire de toute révision possible, des principes substantiels de politique économique, ce que je tiens pour une monstruosité à l'état pur. Donc si vous voulez, normalement dans un texte constitutionnel, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit les règles qui organisent le jeu des pouvoirs publics, la séparation des pouvoirs, et on fixe également, solennellement, quelques droits fondamentaux, les libertés publiques, le droit de vote, d'association, etc., etc. Et c'est tout. À partir de ce moment-là, le cadre des institutions étant posé, le débat politique y prend place, et le débat politique démocratique, qu'est-ce que c'est ? C'est la discussion permanente, ou disons la possibilité permanente, de remettre en discussion tous les éléments des politiques publiques, y compris ceux qui comptent le plus pour les conditions d'existence concrète des populations, à savoir les politiques économiques et sociales. Or, les éléments relatifs aux politiques économiques et sociales ont été inscrits dans les traités européens, donc sous cette forme quasi-constitutionnelle, de telle sorte qu'il est rigoureusement impossible de s'en écarter. Et c'est le fonctionnement mécanique de ces traités et de ces textes, qui sont enrichis par d'autres textes secondaires, comme récemment le fameux TSCG, le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance, espèce d'acronyme technocratique bien fait pour dissimuler la constitutionnalisation des politiques austéritaires. C'est cet ensemble de traités qui fonctionne tout seul et qui contraint les gouvernements, mais qu'ils soient administrés par Pierre, Paul ou Jacques, ça n'a plus aucune importance, à mettre en œuvre l'orthodoxie de finances publiques, c'est-à-dire la réduction des déficits, la diminution des ratios de dette, quitte à ce que ce soit au prix du démantèlement de l'État social. Et alors, l'indifférence de Pierre-Paul ou Jacques, dans le cas français, mais je dis dans le cas français, on pourrait la voir dans tous les pays européens, elle est spectaculairement démontrée si l'on songe à la continuité granitique des politiques économiques entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et en effet, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Et il ne peut pas en aller différemment. Donc, si vous voulez, c'est vraiment réduire à de la bouillie l'idée même d'alternance politique.